Du genre dans l'histoire, épisode 8. Citoyenneté révolutionnaire et éducation des femmes, le genre dans la révolution.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Du genre dans l'histoire, un podcast qui s'adresse aux enseignants pour les aider à mettre en œuvre une histoire mixte dans leurs cours. Aujourd'hui, nous accueillons Caroline Fayolle qui va nous parler de citoyenneté révolutionnaire et d'éducation des femmes. Bonjour Caroline.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Alors, pour démarrer, la citoyenneté est une notion complexe qui tient une place importante dans les programmes de collège et de lycée, mais qui généralement est utilisée de façon assez simpliste avec le sens de citoyenneté politique, qui de fait en exclut longtemps les femmes. Dans le thème 1 du programme d'AGGSP, nouvelle spécialité de première qui interroge la notion de démocratie, dans l'examen de la citoyenneté athénienne en seconde, dans l'étude de la Révolution française en première, la citoyenneté n'est jamais examinée au prisme du genre et la question de la citoyenneté féminine n'est jamais envisagée. Je souhaiterais aujourd'hui aborder pour la première fois ce thème du genre de la citoyenneté à l'aide de Caroline Fayolle, spécialiste de l'éducation et du genre de la citoyenneté à l'époque révolutionnaire, autrice de l'ouvrage « La femme nouvelle, genre, éducation, révolution » paru en 2017. Nous allons nous demander avec elle quelle fut la spécificité du statut de citoyenne durant les 10 années de la Révolution française et quel fut le rôle de l'éducation dans le statut politique imposé aux femmes par les révolutionnaires. D'abord Caroline, peux-tu présenter aux auditeurs et aux auditrices ton parcours, tes thèmes de recherche et tes fonctions actuelles ?
Oui, alors je suis actuellement maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Montpellier. J'ai fait ma thèse effectivement sur les enjeux politiques de l'éducation des femmes pendant la Révolution française jusqu'aux années 1830. Et donc ce qui m'intéresse, c'est d'interroger l'histoire du genre en contexte révolutionnaire et d'interroger les liens entre la fabrique des identités sexuées par l'éducation et les enjeux liés à la citoyenneté. Aujourd'hui, je m'intéresse plus généralement à l'histoire du genre pendant les révolutions du 19e siècle.
Caroline, qu'est-ce qui change avec la Révolution française dans l'éducation qui est donnée aux filles et aux femmes ?
C'est vrai qu'avant la Révolution française, sous l'Ancien Régime, il y avait plusieurs voies pour éduquer les filles, hein, selon les classes sociales. Hein, les filles de l'élite sociale étaient soit éduquées à domicile, soit étaient envoyées dans les couvents, hein, qui ont été largement critiquées pendant la Révolution française, ou aussi dans des pensionnats. Les filles, elles, des classes populaires, étaient éduquées très majoritairement hein, par les congrégations religieuses, quand elles avaient accès à un petit peu d'instruction, mais c'était une instruction excessivement limitée. Alors, avec la Révolution française, il y a deux éléments qui changent principalement. La première chose, c'est que pour la première fois dans l'histoire de France, hein, vont être instaurées des écoles publiques républicaines pour les filles. C'est-à-dire, on dit souvent que ça date de Jules Ferry. En fait, ça date de la Révolution française, mais ça a été oublié parce que ça a été jusque-là peu étudié, puis ça n'a pas duré très longtemps, il faut le dire, hein, quelques années. Mais ces écoles républicaines ont aussi permis le recrutement d'institutrices républicaines, les premières aussi institutrices républicaines, qui étaient donc chargées d'enseigner dans ces écoles. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté qui est instaurée à partir de l'automne 1793. Cette école publique pour les filles donc, concerne avant tout le primaire et non pas le secondaire, les filles étant exclues du secondaire pendant toute la période de la Révolution française. On y reviendra sans doute. Et puis l'autre élément important, je pense, et en lien avec notre sujet, c'est qu'à partir de la Révolution française, véritablement, la question de l'éducation, c'est une question politique. C'est une question politique qui est intrinsèquement liée à la question de la citoyenneté. Et on va aborder la problématique de l'éducation des filles par ce prisme-là.
Alors justement, est-ce qu'avant 1789... il y a des femmes qui s'interrogent sur leur participation politique ou sur la politique en général. Et est-ce qu'on peut rattacher des femmes au mouvement des Lumières ?
Oui, bien sûr. Alors, le mouvement des Lumières, qui a les Lumières, c'est aussi une construction qui a été faite par les révolutionnaires, hein, comme l'a bien montré Roger Chartier. Et donc, c'est un corpus de textes, un ensemble de références dans lesquelles les femmes ont assez peu de place. Mais dans les faits, à la fin du XVIIIe siècle, des femmes, qui sont des femmes intellectuelles, hein, qui, de l'élite sociale le plus souvent, ont largement participé à la réflexion générale qui était menée dans la lutte contre l'absolutisme, pour essayer de penser un nouveau modèle politique et aussi pour penser un nouveau modèle éducatif. C'est vrai que la question éducative est vraiment une grande question pour les Lumières, hein. C'est un des grands thèmes pour ces penseuses et penseurs, avec en fait cette nouveauté qui va avoir un rôle très important ensuite pendant la Révolution française, c'est cette idée que l'éducation désormais est envisagée comme toute puissante, c'est-à-dire qu'elle a la possibilité de transformer l'individu. Les Lumières mettent en avant la notion de perfectibilité. Et les femmes des Lumières, je pense par exemple à Madame d'Épinay, a du coup essayé d'aller, de poursuivre jusqu'au bout ce postulat de la toute-puissance de l'éducation. Si l'éducation est toute-puissante, elle peut du coup transformer les identités sexuées, elle peut éventuellement effacer de la différence socialement construite entre les garçons et les filles, elle peut construire l'égalité. Et donc ça va vraiment être un thème de réflexion qui articule la question de l'éducation et la question politique, et la question de l'égalité homme-femme, l'éducation pourrait être un moyen de fabriquer de l'égalité.
En t'écoutant, je m'interroge sur la participation des femmes aux événements révolutionnaires et en particulier aux insurrections qui ont lieu en France entre 1789 et 1795. Ce ne sont pas du tout des femmes instruites.
Alors, les femmes du peuple qui ont effectivement participé activement aux insurrections dès le début, hein. Dès notamment les fameuses journées du 5 et 6 octobre 1789, où les femmes vont aller chercher le roi pour le ramener dans la capitale. On peut inscrire cette mobilisation de femmes dans une tradition plus ancienne, puisque les femmes avaient pris largement part aussi à d'autres révoltes sous l'Ancien Régime, et notamment les révoltes concernant les subsistances, hein, avec cette idée que c'est sur les femmes que retombait la question de la gestion du ménage, la gestion de l'alimentation, etc. et qu'elles avaient directement un rôle important sur cette question de la gestion des subsistances. Les femmes de la Révolution française reprennent cette tradition puisqu'elles réclament du pain, etc. Donc la question des subsistances est centrale, hein, dans les premières insurrections révolutionnaires. Mais par ailleurs, ces questions-là sont éminemment politiques aussi, puisque qui dit subsistance, qui dit organisation de la cité, comment on organise la vie économique, sociale, etc. Et donc, ce sont des femmes qui vont être engagées politiquement par la force des choses, mais aussi parce qu'elles estiment qu'en tant que mères, notamment épouses, etc., elles ont un rôle à tenir sur cette question-là. Ces questions-là, par ailleurs, on va les retrouver pendant toute la période, notamment jusqu'en 1795. 1795, c'est les émeutes de Périal, qui sont en fait les dernières grandes insurrections sans culotte, auxquelles les femmes ont largement pris part. Elles ont tellement pris part d'ailleurs à ces événements que pour les révolutionnaires, les législateurs révolutionnaires qui vont réprimer ces journées insurrectionnelles, ils vont par la suite interdire aux femmes de se rassembler à plus de 5 dans la rue, hein, pour éviter de nouveaux débordements. Donc c'est dire, hein, l'importance des femmes dans ces dynamiques insurrectionnelles révolutionnaires.
Oui, ça pose d'autant plus la question, me semble-t-il, du texte, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dans quelle mesure ce texte s'adresse-t-il aux femmes ?
Alors, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est un texte qui va être traversé dès le départ, en fait, par une forme d'ambiguïté. Puisqu'on peut lire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen comme la déclaration et la reconnaissance des droits naturels. Les droits naturels, hein, c'est une notion qui date, qui a été déjà élaborée les siècles précédents, notamment au XVIIIe siècle, et qui renvoie en fait à l'idée que, en tant que membre de l'humanité, en tant qu'appartenant à l'humanité, on dispose de droits qui nous sont inaliénables. Cette idée-là donc impliquerait que tous les individus humains ont, dès leur naissance, des droits, qu'il s'agit ensuite de reconnaître. À partir de là, bien sûr, certaines femmes ont vu la Déclaration des droits de l'homme et citoyen comme une brèche dans laquelle elles vont s'engouffrer pour réclamer des droits. Elles vont la percevoir comme une promesse. Oui, elles considèrent cette Déclaration des droits de l'homme et citoyen comme une forme de promesse à réaliser. Il s'agit pour elles de rendre concrets ces droits naturels qui sont énoncés dans la Déclaration, de les rendre réels, de rendre leur reconnaissance effective. En revanche, la majorité des législateurs perçoivent cette déclaration comme des déclarations de droits abstraits qui, dans les faits, de manière implicite, ne concernent que les hommes et en particulier les hommes, on va le voir, qui sont issus de l'élite sociale, qui sont blancs, etc.
Donc tu veux dire que dès le départ, il y a une confusion autour du mot « homme ».
Enfin, il y a une confusion. En tout cas, il y a une ambiguïté. C'est évident que pour les artisans de cette déclaration des droits, il n'y avait pas une conception d'universalité qui incluait toutes et tous. Mais en revanche, le texte a pu être déclencheur de revendications politiques pour les exclus de la citoyenneté, dont les femmes.
Donc finalement, quand encore aujourd'hui on parle de l'universalité de ce texte, cette universalité n'était absolument pas prévue au départ par les législateurs.
Bah, c'est que, en fait, ça défend comment on considère l'universalisme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, on se réfère à la Révolution française comme la figure de l'universalisme, le temps de l'universalisme, etc. C'était une conception de l'universel qui était, en vérité, traversée déjà de conflits. C'est-à-dire que tous les révolutionnaires, hommes, femmes et même parmi les hommes, n'avaient pas la même conception de qu'est-ce que c'était que l'universalisme. Et donc, mon avis, c'est qu'il faut considérer l'universalisme non pas comme un état de fait qui aurait été mis en place pendant la Révolution française, mais comme justement une dynamique qui est sans cesse en train de muter, qui est traversée sans cesse de conflits, et jusqu'à aujourd'hui, en fait, dans les critiques qu'on peut avoir contre l'exclusion réelle, les discriminations, etc., c'est une manière de remettre en jeu cet universalisme, finalement, et essayer de le faire, une nouvelle fois, de le rendre concret, et non plus seulement de se suffire de principes abstraits qui, en réalité, viennent masquer des rapports de domination.
Alors justement, un des éléments qui a pu entraîner une forme de confusion, c'est le fait que les femmes obtiennent le titre de citoyenne. Que signifie ce mot pour les contemporains qui les appellent citoyennes ?
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que voilà, dans le monde nouveau qui s'ouvre avec la Révolution, on veut créer une société nouvelle, on veut créer un monde nouveau. On veut changer aussi les habitudes, le rapport au temps, comme on le voit avec le calendrier révolutionnaire, mais aussi le rapport interindividuel, en fait, le rapport entre les gens, dans la rue notamment, dans les espaces de sociabilité, etc. On utilise plus fréquemment le tutoiement citoyen et on évite le fameux terme de monsieur, madame, qui connotait très ancien régime, et donc on appelle les uns et les autres citoyens, citoyennes. Ce qui veut dire, en fait, en appelant les femmes citoyennes, c'est on est entre républicains, enfin, en tout cas à partir de 1792, on est en tout cas entre gens qui adhèrent à la Révolution. Pour autant, la citoyenneté, c'est donc faire partie de la cité révolutionnaire, on peut la voir comme ça, mais bien sûr, ça va bientôt être lié à l'exercice de droits. Et c'est là où les débats vont être vastes sur qui a accès à ces droits ou pas.
Oui, quel contenu donner à cette citoyenneté ? Alors, comment peut-on expliquer que les historiens, pendant longtemps, se soient assez peu intéressés à la spécificité de la citoyenneté féminine et aux femmes pendant la Révolution ?
C'est vrai que l'historiographie, pendant longtemps, s'est peu intéressée aux femmes, à la question du genre, etc. Il faut signaler, bien sûr, les travaux pionniers, notamment ceux de Dominique Godinot, qui ont été très importants, qui ont ouvert vraiment un nouveau champ de recherche avec son ouvrage « Citoyenne tricoteuse » qui date de 1988. Depuis, il y a de nombreux travaux qui ont été réalisés sur les questions d'histoire du genre et pendant la Révolution française. Mais c'est vrai que pendant longtemps, il y a eu une forme de résistance qui s'observe pour d'autres périodes historique. Hein, voilà, les historiens étaient majoritairement des hommes, ils avaient un prisme qui n'était pas du tout un prisme féministe pour écrire une histoire mixte. Voilà. Mais il y a aussi cette idée que la Révolution française est aussi un mythe fondateur, correspond à une période qui est soit idéalisée, soit complètement rejetée. Et c'est vrai que la question des femmes pouvait gêner à la fois les conservateurs qui accusaient la Révolution française qu'eux-mêmes ne défendaient pas des idées d'égalité, mais aussi ceux qui étaient plutôt des historiens qui se reconnaissaient dans un héritage de la Révolution française et qui voyaient bien le problème de cette Révolution qui à la fois est la grande promesse, comme on le disait, d'universalité, d'émancipation, et en même temps ce fameux temps d'exclusion de la moitié de l'humanité. Voilà, cette gêne-là faisait en sorte que les historiens essayaient de passer outre et finalement ne transformaient pas leur regard sur la Révolution française à partir de l'expérience des femmes. Et je crois que c'est un des apports de l'histoire du genre pendant la Révolution française, c'est nous donner un regard différent en fait sur la Révolution.
Alors revenons à la question de l'éducation des filles. Dans ton livre, tu expliques que les parlementaires de 1789 étaient très influencés dans leur conception des rôles masculins et féminins par la pensée de Rousseau. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs et aux auditrices quelles sont ces conceptions et en quoi elles ne sont pas très favorables à la citoyenneté politique des femmes ?
Alors effectivement, dès les débats parlementaires à la Constituante, les parlementaires vont s'interroger sur la question de l'éducation des filles et sur aussi retrouver dans leur discours des réflexions sur les rôles attribués à chaque sexe. Et pendant la Constituante, et ça va bouger par la suite, on va avoir chez des parlementaires comme Mirabeau, par exemple, hein, qui a fait des discours célèbres sur cette question, on va retrouver effectivement l'empreinte et une référence directe à un ouvrage de Rousseau qui s'appelle « L'Émile », ouvrage pédagogico-politique bien célèbre qui avait eu un très grand succès, et notamment à la figure féminine de l'Émile, qui est Sophie, qui est un personnage qui incarnerait un modèle de féminité idéale pour des législateurs comme Mirabeau. Alors, ce qu'il faut voir, et ça je le précise tout de suite, c'est que la pensée de Rousseau sur ces questions de différence des sexes, de rapport entre les sexes, est très complexe et varie selon les textes qu'on prend. Par exemple, si on prend le discours sur l'origine de l'inégalité, on ne va pas du tout avoir la même lecture de la différence des sexes que dans l'Émile. Donc, ce qu'il faut voir, une nouvelle fois, c'est que les révolutionnaires vont choisir des textes et pas d'autres, hein. Et donc là, ils vont se référer principalement à l'Émile pour avoir une vision de ce qu'ils nomment la nature, qui est un des grands thèmes révolutionnaires. Et pour eux, la nature renverrait à une espèce d'ordre pré-social qui vient destiner chaque sexe à un rôle spécifique. Et donc, revenir à la nature, ce qui est le projet révolutionnaire, c'est arrêter de rompre avec l'artifice de l'Ancien Régime et retrouver cet ordre naturel pour fonder une société nouvelle et régénérée, terme très important de l'époque révolutionnaire, eh bien pour opérer cette régénération, il faut du coup repartir sur cet ordre naturel et donc réaffirmer que les femmes ont un rôle avant tout domestique, un rôle aussi naturellement inférieur à l'homme, comme pouvait l'être Sophie vis-à-vis d'Émile, et donc qu'elles ont une fonction qui est vraiment une fonction qui les place en dehors de la vie de la cité et de l'espace de décision politique. Donc ces arguments-là vont venir justifier le fait que les femmes n'aient pas les droits à la citoyenneté. Cela va être renforcé de plus par un autre type d'argument, qui est l'argument des médecins, qui sont notamment des médecins du XVIIIe siècle, qui allaient aussi faire tout un discours sur la nature des femmes. Alors là, ce n'est pas la nature au sens philosophique, au sens de Rousseau, c'est une nature au sens vraiment biologique, avec l'idée que les femmes sont déterminées par leur nature biologique, notamment par leur utérus, et qu'elles sont naturellement, biologiquement, ont des moindres capacités intellectuelles, moindres capacités physiques, et que cette dimension physiologique qui vient justifier aussi l'infériorisation politique des femmes.
Dans l'union des sexes, chacun concourt également à l'objet commun, mais non pas de la même manière. De cette diversité naît la première différence assignable entre les rapports moraux de l'un et de l'autre. L'un doit être actif et fort, l'autre passif et faible. Dès qu'une fois il est démontré que l'homme et la femme ne sont ni ne doivent être constitués d'eux-mêmes, de caractère ni de tempérament, il s'ensuit qu'ils ne doivent pas avoir la même éducation. Elles doivent apprendre beaucoup de choses, mais seulement celles qu'il leur convient de savoir. Toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes, leur plaire, leur être utile, se faire aimer et honorer d'eux. Les élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce, voilà les devoirs des femmes dans tous les temps et ce qu'on doit leur apprendre dès leur enfance. Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l'éducation, livre 5, 1762.
Après ce texte, on peut se demander qui est citoyen à l'époque révolutionnaire.
Comme on va le voir, il y a plusieurs définitions, plusieurs modèles de citoyenneté. Mais en tout cas, qui a le droit de suffrage? On peut déjà se poser cette question-là. La question du droit de suffrage, alors ça va évoluer tout au long de la période, puisque les femmes, elles, sont exclues du droit de suffrage pendant toute la période, donc ça, voilà, ça au moins c'est clair. En revanche, il va y avoir des modifications, puisqu'au départ, en fait, les hommes des classes populaires, les domestiques aussi, qui sont censés être dans un état de dépendance vis-à-vis de leur maître, ne sont pas reconnus comme des hommes émancipés et donc ne peuvent pas voter. Par la suite, avec notamment la figure du citoyen soldat pendant l'an 2, où des hommes populaires vont quand même perdre leur vie, enfin en tout cas engager leur vie pour défendre la Révolution, la question du suffrage universel va se poser, donc à partir de la République en 1792, et puis il y aura un retour du suffrage censitaire à partir de la Constitution de l'an 3, celle de 1795, qui aussi voilà, oblige le paiement d'un cens pour voter et donc va exclure les plus pauvres du droit de vote. Donc, il y a aussi la question, bien sûr, des esclaves dans les colonies, qui vont être... l'esclavage va être seulement aboli en 1794. Et là, les hommes anciens esclaves vont accéder à la citoyenneté. Donc voilà, les choses évoluent. Il y a plusieurs catégories de population qui sont exclues du suffrage. Il est d'ailleurs intéressant de penser le lien que peuvent avoir ces catégories de population. Les législateurs mettent souvent en avant cette notion, comme je vous le disais, de dépendance, avec cette idée que les femmes, les domestiques, les plus pauvres ne pourraient accéder à une forme d'indépendance à la fois économique et intellectuelle qui leur permettrait d'avoir l'autonomie du jugement et donc de pouvoir avoir un vote éclairé. Donc ça, c'est vraiment des choses qui reviennent très fréquemment. Mais en fait, quand on analyse de près la situation, on remarque tout simplement que ces fluctuations sur l'accès au droit de vote sont tout simplement aussi le reflet de rapports de domination entre les sexes, entre les classes sociales, dans le rapport colonial, etc., qui font qu'on va plus ou moins intégrer ces populations.
Et comment les femmes réagissent-elles à leur exclusion du droit de vote ?
La plupart des femmes engagées pendant la Révolution française ne vont pas revendiquer le droit de vote. Ça fait partie des revendications qui sont tellement peu audibles pour les législateurs révolutionnaires, ça paraît tellement impossible qu'elles vont être très peu portées par les femmes. Les femmes elles-mêmes, d'ailleurs, beaucoup d'entre elles, intériorisent cette idée que le droit de vote n'est pas pour elles, etc. Cependant, la Révolution française, c'est quand même un moment où... comme on en a parlé tout à l'heure, il y a eu cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, cette brèche qui fait que certains vont se dire « voilà, enfin, on va pouvoir peut-être accéder aux droits, accéder à l'égalité ». Et donc, on va avoir des femmes, quelques hommes aussi, on cite souvent Condorcet, Pierre Guillaumard aussi, des législateurs très intéressants sur ces questions, et des femmes comme bien sûr Olympe de Gouges, comme d'autres femmes moins connues, comme Etta Palme d'Elders, mais aussi comme d'autres femmes encore qui n'ont pas du tout été gardées dans la mémoire collective, et qui vont contester cette exclusion et contester les arguments émis par législateurs pour justifier cette exclusion. Et donc, ce qui est très intéressant avec ces discours, c'est que certes, ils sont minoritaires, mais ils vont pointer les contradictions des discours révolutionnaires, des législateurs révolutionnaires, et ils vont du coup, en pointant les contradictions, montrer justement ce qui est pensable, ce qui est possible, et en quoi la révolution quand même est un moment de déstabilisation, où les répartitions des rôles entre les sexes, qui est pourtant martelée par le parlementaire, n'est pas si évident que ça. Et donc c'est dans ce moment de déstabilisation, finalement, qu'on voit l'histoire du genre en train de se faire. Et c'est pour ça que la Révolution française est un observatoire vraiment privilégié pour observer, dans son historicité, les rapports entre les sexes.
Article 1er. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 1791.
Et dans les débats entre les parlementaires, quelle place va tenir la question de l'éducation des filles ?
Alors tout à l'heure, je vous avais donné l'exemple de Mirabeau, etc. C'est vrai que sous la Constituante, on dit que les femmes, leur rôle est domestique, c'est leur rôle de femme au foyer, donc a priori, il faut éduquer les filles dans leur foyer, vu que c'est ce qu'il y a de plus simple, qu'elles soient élevées par leur mère. Donc ça, c'est le point de départ un peu des débats législateurs sous la Constituante. Les choses vont largement évoluer à partir du moment où la République est proclamée. Ici, on va avoir l'émergence de nouveaux débats sur l'éducation, qui vont avoir un rôle très important, alors qu'on est en guerre, qu'on est en révolution, on va parler d'éducation, parce que parler d'éducation, c'est parler de quoi ? C'est parler de futur, tout simplement. C'est quelle cité future on veut. Et parmi ces grands débats sur l'éducation, on va parler de l'éducation des filles. Et ici, on va avoir un changement, c'est qu'on ne va plus vouloir éduquer les filles dans le cadre domestique. On va vouloir les éduquer dans le cadre public, c'est pour ça qu'il y a eu ces fameuses lois qui datent donc, notamment la loi Bouquier du décembre 1793, qui va instaurer les fameuses écoles publiques de filles. Alors pourquoi on veut éduquer publiquement les filles ? Eh bien la réponse est reliée avec la question de la citoyenneté justement. En fait, les révolutionnaires vont estimer que les femmes ont une influence cruciale sur les mœurs. Et donc pour fabriquer des mœurs républicaines, de nouvelles mœurs, il faut absolument éduquer les filles. Plus généralement, il y a cette idée qui va être très répétée pendant la période révolutionnaire, c'est que les femmes vont avoir une influence cruciale sur l'éducation de leurs enfants. Et donc, il faut impérativement former des mères républicaines pour qu'elles-mêmes puissent transmettre à leurs enfants, notamment à leurs fils, les principes républicains. avec cette idée que finalement, les femmes sont celles qui fabriquent des citoyens. Et ça, dès le plus jeune âge. Hein. Ils insistent beaucoup sur, notamment, transmettre le lait patriotique, hein, valorisation de l'allaitement pendant la Révolution française. Cette idée que pour la toute petite enfance, en fait, déjà, on s'imprègne de ce qu'on dirait aujourd'hui un habitus républicain. Enfin, voilà, ces mœurs républicaines qui font l'homme nouveau, qui font l'homme régénéré. Et donc, il est essentiel pour les révolutionnaires de prendre en charge l'éducation des filles. Parce que si on laisse les filles être éduquées dans le cadre privé ou dans le cadre domestique, eh bien, on n'a aucune prise sur ces questions-là. Donc, pour républicaniser la France, pour enraciner la République dans les esprits, il faut éduquer les femmes qui ont donc du coup un rôle politique majeur, qui est celui donc de fabriquer des citoyens. C'est pour ça que je les ai appelées des matrices de citoyens. Donc, c'est pas vrai quand on dit que les femmes n'ont aucun rôle politique pendant la Révolution française. Elles en ont un, mais elles n'ont aucun rôle de décision politique. On y reviendra. En tout cas, elles ont quand même ce rôle crucial dans la formation d'un peuple nouveau.
Mais toutes les femmes n'étaient pas d'accord pour voir limiter ainsi leur rôle. Comment se sont exprimées concrètement leurs aspirations à participer à la vie politique révolutionnaire ?
Alors effectivement, des femmes, notamment des femmes du peuple, ne se contentent pas de ce modèle de la mère républicaine. Par ailleurs, elles vont aussi l'investir. Elles vont pas être critiques contre ce modèle-là. Elles vont investir et dire oui, on est des mères républicaines, et parce qu'on est des mères républicaines, on doit pouvoir justement participer à la vie politique. Hein. Le fameux Etta Palme-Dulders qui a dit, citation qui est vraiment intéressante je trouve, c'est qu'elle dit pour éduquer des hommes libres, eh ben, il faut nous-mêmes connaître la liberté. Donc, vous voyez comme elles utilisent finalement, elles retournent un peu ce modèle de la mère républicaine au profit d'une vision plus émancipatrice des femmes. Alors, par ailleurs, les femmes des classes populaires, les femmes sans culottes notamment, vont aussi jouer des rôles politiques multiples. Ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes sont considérées, comme je vous le disais tout à l'heure, comme des citoyennes passives. Pourquoi des citoyennes passives ? Puisqu'elles sont censées avoir des droits civils, mais pas de droits politiques. Alors, elles ont quand même des droits politiques dans le sens où le droit de pétition, par exemple, a été reconnu comme un droit politique et elles pouvaient pétitionner. Certaines se sont armées, donc avec cette idée que, pareil, le port des armes peut être considéré comme un droit politique. Certaines, donc, on en a parlé tout à l'heure, ont participé aux insurrections, donc ont exprimé directement leur souveraineté politique par le biais des journées révolutionnaires. Certaines aussi ont participé à des clubs, donc il y a eu des premiers clubs féminins qui ont été fondés pendant la Révolution française, des clubs aussi mixtes qui permettaient aux femmes de s'acclimater aussi avec le vocabulaire politique. Donc les femmes s'instruisaient dans les sociétés populaires, elles s'instruisaient aussi en venant assister aux débats dans les assemblées, notamment à l'Assemblée nationale. C'était aussi une manière pour elles d'apprendre ce que c'était que la politique concrètement, apprendre les mots du politique, apprendre comment on argumente, la rhétorique. Il y a plein de chemins différents pour les femmes pour exprimer leur citoyenneté. Et ce qu'il faut voir en fait, c'est que pendant la Révolution française, il n'y a pas qu'une vision restreinte de la citoyenneté, au sens de la citoyenneté légale telle qui avait été mise en place par les législateurs. Les législateurs, pour eux, comme je vous disais, il y a les citoyens actifs qui ont droits civils, droits politiques, et les citoyens passifs qui ont des droits civils mais pas des droits politiques. En réalité, pour les sans-culottes, par exemple, ils vont défendre une autre conception de la citoyenneté, avec cette idée que être citoyen, c'est pas seulement de déposer un bulletin dans l'urne, c'est exercer concrètement sa souveraineté. Et donc, exercer sa souveraineté, c'est agir dans l'espace public pour défendre ses idées, pour agir dans les débats. Et donc, cet exercice de la souveraineté, ça, il y a beaucoup de femmes sans culottes, et Dominique Godinot, d'ailleurs, l'a bien montré, c'est que des femmes sans culottes se reconnaissent dans ce modèle de citoyenneté qui est beaucoup plus inclusif pour elles, finalement, bien que les sans culottes étaient généralement pas du tout défendeurs de l'égalité homme-femme sur le plan politique, mais elles voyaient dans ce modèle de citoyenneté défendu, en tout cas par les classes populaires, un moyen finalement aussi d'agir. Et donc elles étaient là à dire « nous exprimons le souverain, nous sommes une incarnation du souverain, et donc par nos actions politiques directes dans l'espace public, on exprime une citoyenneté ».
Alors, petite question subsidiaire, parce que quand on parle on dit les femmes, finalement, ce sont des femmes de milieux très différents. Et tu nous as parlé des femmes sans culottes. Qui sont les femmes qui adhèrent au club, qui participent, qui déposent des pétitions, etc. Est-ce qu'il fallait appartenir à un milieu privilégié pour le faire ou au contraire, est-ce que c'était ouvert ?
Non, non, il y avait tout à fait des femmes des classes populaires qui pouvaient pétitionner, qui pouvaient aussi participer donc, à ces espaces de sociabilité politique. Il y a aussi une des pratiques qui est ce qu'on appelle le don de bijoux patriotiques. Hein, les dons patriotiques, c'est-à-dire des femmes qui venaient apporter leurs bijoux à l'Assemblée nationale pour la Révolution, etc. Et donc, pour montrer en fait leur engagement en faveur de la Révolution, en disant, voyez, on est engagé, on est dans ce mouvement-là, vous ne pouvez pas nous mettre à côté, on fait partie de cette dynamique collective révolutionnaire. Et ça, on peut retrouver voilà, des femmes issues de différentes classes sociales qui ont fait cette pratique-là.
Citoyen président, cette constitution auprès de laquelle nous soupirions depuis si longtemps est offerte aujourd'hui à la sanction du peuple. Quel heureux avenir pour nous se prépare! Quels doux fruits vont éclore de l'arbre saint de la liberté! Heureux Français, vous qui commencez en ce jour d'en goûter les prémices! Votre règne commence aujourd'hui et notre sexe est jaloux de partager votre empire. Quand des milliers de citoyens s'empressent à l'envie de couronner le chef-d'œuvre de nos représentants par une acceptation libre et unanime, quand la France entière célèbre par des transports de joie le jour de la félicité, quand leurs pères, leurs époux, leurs enfants, leurs frères ont prodigué leur sang pour cette liberté précieuse, les citoyennes n'ont-elles pas aussi le droit de ratifier un acte auquel elles ont si efficacement coopéré ? Pétition envoyée par des Beaumarchaises à la Convention nationale en 1793, extrait 2. Pauline Moskowski-Ouragli, citoyenne des champs, Les femmes de Beaumont du Périgord pendant la Révolution française, aux éditions Pure Collection Mnemosyne, en 2015.
Et est-ce que ces femmes de différentes classes sociales, finalement, est-ce qu'elles se rencontrent, est-ce qu'elles se croisent, ou est-ce que ça reste quand même assez cloisonné socialement ?
Bah, ça, c'est vraiment une question qui est intéressante, qui est parfois difficile à mesurer. Je pense qu'il n'y a pas du tout un effet effacement des classes sociales, comme pouvaient le dire les révolutionnaires qui parlaient de creuset révolutionnaire, où toutes les classes sociales se mélangeaient, où il y avait l'unité du peuple, etc. Non, dans les faits, bien sûr, les classes sociales étaient encore très vivantes pendant la Révolution française. Mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est, je pense à une source qui est une femme qui s'appelle Rosalie Julien, qui est la femme d'un député, qui est plutôt issue de la bourgeoisie, et qui en fait s'est retrouvée toute seule à Paris pendant la Révolution française parce que son mari était envoyé en mission. Et on a les lettres en fait qu'elle envoyait à son mari et à son fils aîné. Et en fait, c'est la vie d'une femme de la bourgeoisie toute seule qui se promène dans le Paris révolutionnaire avec son plus jeune fils, qui a un petit garçon, et elle va s'enthousiasmer pour la vie politique, elle va vouloir se mêler à la foule, elle va vouloir justement sortir un petit peu des espaces de sociabilité bourgeois. On voit vraiment un chemin vers la politisation à travers Rosalie Julien, par l'excitation, vraiment l'enthousiasme que peut susciter l'énergie révolutionnaire, on va dire, et qui va l'amener à aller dans des chemins sociaux qui n'étaient pas les siens. Bon, ça ne va pas durer longtemps, son mari va vite la remettre à l'ordre, comme on le voit dans les lettres, mais c'est très intéressant de voir ces déplacements possibles pendant les périodes révolutionnaires.
Est-ce que ce souci d'éducation des filles se prolonge après la Terreur ou est-ce qu'il se transforme ? Où est-ce qu'il disparaît ?
Déjà, il faut peut-être dire, c'est que l'an 2, donc période qui est parfois considérée comme assez peu favorable aux femmes, puisqu'il y a notamment le vote du décret Amar en octobre 1793, qui interdit les clubs féminins. Donc ça, c'est vraiment un coup d'arrêt hein, à cette dynamique des sociabilités populaires féminines, qui est tout à fait révélateur aussi hein, d'une volonté. Bon, bah voilà, les femmes sont difficiles à maîtriser, peuvent être un danger politique. On va essayer de les mettre un petit peu au pas.
Les femmes doivent-elles exercer les droits politiques et s'immiscer dans les affaires du gouvernement ? Gouverner, c'est régir la chose publique par des lois dont la confection exige des connaissances étendues, une application et un dévouement sans bornes, une impassibilité sévère et l'abnégation de soi-même. Les femmes sont-elles susceptibles de ces soins et des qualités qu'ils exigent ? On peut répondre en général que non. Bien peu d'exemples démentiraient ce jugement. Secondement, les femmes doivent-elles se réunir en association politique ? Non, parce qu'elles seraient obligées d'y sacrifier des soins plus importants auxquels la nature les appelle. Il y a un autre rapport sous lequel les associations des femmes paraissent dangereuses. Si nous considérons que l'éducation politique des hommes est à son aurore, que tous les principes ne sont pas développés, et que nous balbutions encore le mot « liberté », à plus forte raison, les femmes dont l'éducation morale est presque nulle sont-elles moins éclairées dans les principes. Leur présence dans les sociétés populaires donnerait donc une part active dans le gouvernement à des personnes plus exposées à l'erreur et à la séduction. Discours du député Jean-Pierre-André Amar, 1793.
Ce qu'il faut voir, c'est que du côté, si on se place sur le curseur des écoles, les écoles de l'an 2 sont beaucoup plus, on va dire, intéressantes pour étudier les voies d'émancipation des femmes, puisque j'ai pu voir, dans certains interstices, hein, c'est pas du tout majoritaire, mais il y a quand même des choses très intéressantes, des institutrices de l'an 2 qui vont profiter de leur statut pour essayer d'éduquer politiquement leurs filles de manière assez transgressive. Par exemple, elles vont dire, bon bah voilà, vous voulez qu'on forme des futures mères républicaines ? Eh bien, très bien. Il faut donc leur donner pas seulement les principes, mais la philosophie politique qui est à la base de la République. Donc, on va faire lire à des petites filles du Rousseau, des textes philosophiques complexes, etc., qui n'est pas du tout, normalement, dans le ressort de l'instruction des filles, hein, qui était quand même beaucoup plus limitée sur le plan intellectuel. D'autres institutrices républicaines vont aussi dire « Vous voulez qu'on forme des mères républicaines ? Très bien. » Il faut aller dans ces cas-là les amener dans les lieux de sociabilité républicaine, il faut aller les amener dans les clubs, il faut les amener à l'assemblée, il faut les amener à la tribune. Elles demandent parfois à leurs élèves de faire des discours. Donc on se retrouve avec finalement, vous voyez toujours cet argument de la mère républicaine qui est retourné finalement comme un moyen de réclamer eh bien, une participation active et une formation des filles, des petites filles très jeunes hein, qui ont entre 6 et 10 ans, à cette vie citoyenne future. Si on leur apprend à bien parler, si on leur apprend à manier des savoirs abstraits, on leur apprend à s'investir en dehors de la classe, voilà, tous ces éléments-là montrent qu'on veut fabriquer pas seulement des mères républicaines, mais des citoyennes.
Mais ça va durer combien de temps ?
Alors, c'est très court, hein, c'est vraiment pendant l'année 93-94. À partir de 95, il y a une nouvelle loi sur l'éducation, qu'on appelle la loi Daunou, qui date d'octobre 1795, et qui va un petit peu remettre les choses en ordre, dans le sens où, déjà, la mixité dans les classes est strictement interdite, chose qui avait fréquemment lieu en 93-94, notamment dans les campagnes. Les législateurs vont aussi beaucoup plus encadrer les institutrices, on va les surveiller étroitement. Et aussi, il y a une forme de désengagement financier du directoire qui fait que, en fait, l'instruction va ne plus être gratuite, et donc il va avoir une forme de déscolarisation d'un certain nombre de filles. Même si les écoles publiques continuent à exister, puisque pour les hommes du directoire, il est toujours essentiel d'éduquer les filles. Alors pourquoi c'est essentiel d'éduquer les filles pour eux ? Alors il y a encore cette idée que bah, c'est elles qui fabriquent les citoyens, donc il faut les former dans le cadre républicain. Il y a aussi cette idée qui se développe beaucoup au directoire qu'il faut soustraire les femmes à l'influence du clergé, de l'église, cette idée que les femmes seraient plus facilement sous l'emprise des prêtres. Et donc pour finalement républicaniser les esprits, il est impératif de soustraire les femmes à cette influence et de les intégrer à l'influence républicaine. D'autre part, la dernière chose aussi, c'est que les hommes du directoire veulent lutter, en fait, ce que j'ai appelé de deux modèles répulsifs de citoyenneté. Il y a le modèle de la femme fanatique, ce qu'ils appellent la fanatique. C'est la femme contre-révolutionnaire qui veut défendre son prêtre à tout prix, voilà, qui est censée être une folle, qui est décrite un peu comme une hystérique dans les sources des révolutionnaires. Et d'autre part, une autre figure répulsive à partir de 1795, bah c'est justement cette femme sans culotte, celle qu'on va appeler plus tard donc les tricoteuses, qui serait toujours à vouloir encourager la violence, qui serait radicale, etc. Et donc, les hommes du directoire vont aller surveiller les institutrices pour voir si elles n'ont pas en train de soit glisser des catéchismes de l'Ancien Régime, soit glisser des catéchismes de l'an 2 qui mettent en avant la Constitution de 1793 dans leur classe. Donc on a vraiment à nouveau hein, cette idée qu'il faut maîtriser les femmes pour pouvoir maîtriser le projet de régénération de la société.
Oui, on voit bien le désir de contrôle des femmes. Et justement, c'est ce qu'on retrouve avec le code civil napoléonien. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce code civil napoléonien, il est héritier de ce processus qu'on voit se mettre en œuvre pendant la Révolution ?
Alors, je dirais pas qu'il est héritier dans le sens où il va rompre avec des avancées majeures sur les droits civils pour les femmes. C'est à partir de septembre 92 et à la reconnaissance notamment du droit au divorce. Le mariage est considéré comme un contrat. Et un contrat qui lie deux personnes, normalement, à égalité. Donc cette conception du mariage avait été d'ailleurs réclamée énormément par les femmes hein, qui estimaient qu'il fallait abolir la féodalité dans la famille, comme elles le disaient. Donc il y a eu aussi des reconnaissances de droits civils au niveau de l'héritage aussi qui a été important pendant la Révolution française. Donc le Code civil va revenir sur ces avancées. Alors bien sûr, le Code civil ne venait pas de rien. Il va réactiver toute une conception de justification de l'égalité dans les sexes qui date de bien avant la Révolution française, d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'essaie de montrer dans mon livre, hein, c'est qu'à partir de 1802, il y a une vraie rupture qui s'opère. Une rupture au niveau de l'éducation, puisqu'on abandonne les écoles publiques de filles.
parce que désormais on dit les filles, elles sont éduquées par les religieuses, c'est plus du tout un problème parce qu'on veut plus former de citoyens, donc on n'a plus besoin de matrice de citoyens. On va donc à partir de 1802 retrouver à nouveau de manière très forte des anciens discours médicaux qui sont renouvelés par des médecins au service du pouvoir qui vont à nouveau remettre en cause l'idée qui était très présente pendant la Révolution française de la perfectibilité. C'est-à-dire pendant la Révolution française, il y a toujours au moins cette idée qu'on peut transformer les femmes par l'éducation, qu'elles ne sont pas totalement déterminées par leur corps. Ça, c'est quelque chose qui est très fréquent pendant les discours de la Révolution. À partir de 1802, on va avoir tout un discours, au contraire, excessivement déterministe qui revient, qui est réactivé et qui va complètement justifier le code civil. Puisqu'à nouveau, les femmes sont purement déterminées. Elles ne peuvent plus être transformées par le savoir. Leur cerveau est déterminé, il est plus petit que celui des hommes, elles deviennent folles si elles font des mathématiques, on va trouver ce genre d'exemple. Elles vont avoir effectivement un corps qui est complètement voué à la reproduction et uniquement à la reproduction. Et donc, bien sûr, il y a des femmes qui vont contester ça. Il y a des résistances très importantes, elles restent minoritaires, mais qui sont clés pendant l'Empire. Et par la suite, où le code civil napoléonien va vraiment symboliser pendant tout le 19e siècle, notamment pour les féministes, le point absolument à combattre. Puisque c'est vraiment ce qui va faire que les femmes dans leur vie quotidienne, enfin les épouses dans leur vie quotidienne, vont être totalement considérées comme des mineures, complètement sous tutelle, et avec en plus une légalisation aussi de la violence conjugale. Enfin voilà, on est vraiment dans un système d'oppression qui est légalisé et qui va perdurer pendant très longtemps.
Est-ce que pour terminer sur cette première partie du podcast, tu peux nous montrer quels liens s'établissent entre citoyenneté, suffrage et démocratie ?
Oui, je vais essayer du moins. Alors, c'est vrai que souvent, on considère la Révolution française comme le moment où s'établit la démocratie dont on est héritier, etc. Alors, ce qui est vrai sur certains aspects, mais il faut quand même avoir en tête que pendant la Révolution française, je vous disais, il y avait plusieurs modèles de citoyenneté et aussi plusieurs débats sur qu'est-ce que c'est que la démocratie qu'on va instaurer. Les choses n'étaient pas fixées. On est une nouvelle fois dans un temps de bouleversement où rien n'est naturel, rien ne va de soi et on interroge ce qui aujourd'hui nous paraît évident. Et une des choses qu'on interroge notamment, c'est qu'est-ce que c'est une démocratie ? Et pour beaucoup, notamment même pour Sieyès, qui est un des fondateurs de notre système représentatif, le fait de déléguer sa souveraineté par le vote ne constitue pas en soi un acte démocratique. Au contraire, le système dit représentatif, qui n'est pas le système démocratique, est plutôt un héritage d'anciens modèles, puisque voilà, c'est un modèle encore extrêmement hiérarchique, en fait. Les législateurs révolutionnaires vont essayer, alors ils vont débattre aussi du modèle de démocratie directe, hérité de l'Antiquité, etc. Et puis, petit à petit, va se forger le concept de démocratie représentative, qui est un concept clé, notamment sous le directoire, qui va se mettre en place, mais qui vient finalement fusionner des choses contradictoires. Puisque, normalement, voilà, élection de représentants n'est pas, justement, démocratique, comme ce qu'on le croit aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, par exemple, c'est aussi la conception de la démocratie chez les sans-culottes, qui vont, eux, insister non pas sur l'idée de représentants, mais sur l'idée de mandat. C'est-à-dire que c'est des mandats révocables. On peut déléguer une part de souveraineté, mais pour quelqu'un, pour un temps court, et s'il accomplit ce qu'on lui a demandé de faire, s'il ne le fait pas, on le révoque, etc. Donc, avec l'idée aussi qu'il faut une surveillance accrue de ceux qui ont une charge politique. Donc, toute cette réflexion démocratique de 92-93 va par la suite être un petit peu mise de côté par le directoire, qui va forger ce modèle que l'on connaît aujourd'hui, qui est celle du système représentatif, qui est vu comme seul moyen d'expression de la voix du peuple. Cette définition-là vient exclure d'autres conceptions plus inclusifs de fait de la citoyenneté, comme celle qu'on a vue tout à l'heure, où cette idée qu'être citoyen, c'est pas seulement mettre son bulletin, c'est agir directement dans la cité.
Merci Caroline. Alors pour terminer, comme il est de tradition dans ce podcast, nous allons nous intéresser au programme scolaire et à ce que les enseignants peuvent transmettre de la citoyenneté et des femmes dans leurs cours. Tu viens de nous expliquer justement que le lien qu'on établit généralement entre citoyenneté et démocratie n'a rien d'évident et n'a pas toujours existé. Et aujourd'hui, dans les manuels d'histoire ou dans les programmes d'histoire, on a tendance un peu à confondre les deux et à considérer que lorsqu'il y a vote ou lorsqu'il y a suffrage, on est nécessairement dans une démocratie. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en quoi c'est extrêmement limitant et surtout en quoi ça ne permet pas vraiment d'inclure les femmes dans la réflexion sur la citoyenneté ?
Alors oui, cette définition de la citoyenneté limitée au droit de vote pose problème pour enseigner la Révolution française, puisque, comme je venais de vous le dire, la Révolution française, c'est le moment où va s'affronter plusieurs modèles. Donc je pense que ce qui est intéressant pour l'enseignement de cette période, c'est d'insister sur cette conflictualité des modèles. Montrer que voilà, il n'y a pas un modèle qui, de démocratie ou de citoyenneté qui va de soi, qu'il y en a eu plusieurs et qu'il y en a qui ont gagné sur d'autres. Voilà. Et je pense que de restituer cette conflictualité, ça permet de restituer ce que c'est que l'histoire véritable de la démocratie et de la citoyenneté. Et d'autre part, effectivement, si on veut s'intéresser aux femmes, une fois qu'on a dit les femmes sont exclues du droit de vote, dans ces cas-là, d'ailleurs, ça a été dans beaucoup de travaux d'historiens et de beaucoup de manuels d'avant, une fois qu'on a dit ça, très bien, du coup, on ne parle plus des femmes. Voilà. Donc, on parle en histoire politique, en histoire de la citoyenneté, voilà, on est parti. Bon, voilà, elles ne font pas partie de cette histoire.
Oui, en toute bonne conscience.
Bonne conscience, elles ne sont pas parties de ce processus. Ce qui est, je ne dis pas qu'il faut nier ça, mais il faut l'interroger, ce processus d'exclusion. Et pour interroger ce processus d'exclusion, là où c'est intéressant, justement, à nouveau, c'est de voir quel autre mode de citoyenneté les femmes ont pu expérimenter. Et c'est en confrontant ça qu'on peut aussi interroger de manière non naïve ces modèles de citoyenneté qui ont triomphé au XIXe siècle. Et de l'interroger donc d'une manière critique. C'est-à-dire que, comme fréquemment pour d'autres sujets, c'est partir de la marge peut être excessivement pertinente, excessivement heuristique pour interroger un processus comme la construction du citoyen, de la démocratie en France.
Oui, et ça permettrait finalement de donner aux élèves une réflexion plus pertinente et des connaissances peut-être plus précises et de meilleure qualité sur le déroulement de cette période. Parce que finalement, l'histoire qui leur est transmise actuellement, elle est assez caricaturale.
Oui, après les enseignantes et enseignants en font autre chose, comme toujours, le décalage entre les manuels et ce que font les enseignantes et enseignants dans leur classe font quelque chose de beaucoup plus complexe. Mais c'est vrai que moi, j'invite à réfléchir sur les différentes catégories qui sont exclues du suffrage, à les penser ensemble, à penser les différentes catégories dominées de manière plus transversale, à essayer d'articuler en fait l'étude de ces rapports de domination. Et c'est en observant justement ces multiples le rapport de domination, qu'on peut mieux comprendre ce qu'était en fait implicitement l'universalisme révolutionnaire.
Oui, mais c'est un peu délaisser le mythe fondateur révolutionnaire.
Oui, alors délaisser le mythe, oui, enseignement critique de la Révolution française, je pense, ferait beaucoup de bien, puisque quand ça a été servi à la sauce nationaliste, où la Révolution vient servir un discours un petit peu à la gloire de la France, qui aurait été pionnière dans l'histoire de la démocratie, tout ça est évidemment à déconstruire largement en classe. Mais pour autant, il ne s'agit pas non plus de dire que la Révolution a été, comme certains aussi l'ont dit, contre les femmes, alors que l'Ancien Régime aurait permis des choses, etc. Une nouvelle fois, c'est ce que je dis souvent, quand on me demande si la Révolution a été pour ou contre les femmes, je dis ni l'un ni l'autre, parce que la Révolution, ce n'est pas une entité, ce n'est pas un principe unitaire, c'est un bouleversement et c'est une déstabilisation générale. Et donc, c'est le moment où il y a plusieurs voies possibles qui émergent. Donc, c'est ces plusieurs possibles qu'il s'agit de restituer, en fait.
Dans le programme de première, les professeurs sont encouragés à s'arrêter sur le personnage de Manon Rolland. Que penses-tu de ce choix de personnage historique ? Est-ce que c'est un modèle de femme révolutionnaire ?
Alors effectivement, il y a un point de passage d'ouverture sur Manon Rolland, qui est une actrice de la Révolution tout à fait intéressante. Alors est-ce que c'est un bon choix ou pas ? Ça dépend de comment on se place. Je dirais que moi, en tant qu'historienne du genre et du féminisme aussi, je trouve souvent parfois regrettable qu'il n'y ait pas assez de place à l'histoire complexe du combat pour l'égalité des sexes pendant la Révolution française, pendant le 19e siècle, pendant le début du 20e siècle, etc. Donc moi, j'aurais tendance à dire pourquoi ne pas donner des exemples de femmes qui ont, elles, clairement revendiquer l'égalité homme-femme, puisque Manon Rolland, elle, s'est largement intéressée à la vie politique, a eu un rôle politique important, mais n'a jamais défendu un point de vue qu'on dirait aujourd'hui féministe, c'est-à-dire un point de vue sur l'égalité des sexes. Là où c'est une actrice qui pourrait être intéressant à étudier aussi, quand même, c'est si on se place du point de vue des réactions qui ont été faites face à l'action de Manon Rolland. C'est-à-dire que Manon Rolland, pour moi, est une révélatrice d'une forme de misogynie révolutionnaire, puisqu'elle va déclencher quand même des réactions excessivement hostiles et récurrentes, et qui vont atteindre leur apogée lors de son arrestation et sa mise à mort sur la guillotine le 8 novembre 1793. Et lors de sa mise à mort, qui suit de peu la mort de Olympe de Gouges, d'ailleurs, et puis aussi celle, bien sûr, de Marie-Antoinette, lors de cette mise à mort, il va y avoir notamment des articles de presse. Je vous invite, si ça vous intéresse, à aller regarder donc, le site de la BNF sur la presse Retro News, où j'avais fait un papier sur justement les articles de presse suite à la mort de Manon Roland. En fait, on va retrouver dans ces articles le condensé, je dirais, des arguments donnés contre la participation des femmes à la vie politique. Parce que c'est vrai que Manon Roland, elle a été accusée d'être l'incarnation de cette influence pernicieuse qu'auraient les femmes sur la vie politique. Alors là, c'est pas la fameuse influence dont je vous parlais tout à l'heure, la bonne influence, celle des mères sur leurs enfants pour fabriquer des citoyens. Ça serait l'idée que des femmes, notamment qui tiennent des salons, comme l'a fait Manon Roland, des femmes aussi intellectuelles, instruites, vont, comme les femmes aristocrates sous l'Ancien Régime, tirer les ficelles du pouvoir. Avec cette idée derrière que ça dévirilise les hommes, parce qu'en fait, le pouvoir serait en fait tenu par des femmes qui seraient les vraies maîtresses du jeu et qui, du coup, seraient complètement en dehors de leur fonction première, qui est leur fonction de mère. Donc, on va retrouver cette accusation chez Manon Roland qui est extrêmement importante. On va retrouver aussi comme accusation chez Manon Roland celle d'être une femme savante. C'est une accusation qui va se développer beaucoup après sous le directoire. C'est-à-dire que les femmes qui ont accès au savoir intellectuel sont considérées comme justement des femmes qui abandonnent leur fonction première. Et donc, c'est vraiment une figure rhétorique. La femme savante, c'est la figure répulsive. La plupart des femmes qui sont instruites n'arrêtent pas de commencer leur phrase en disant « Je ne suis pas une femme savante ». Mais bon, voilà. Par ailleurs, j'ai un petit peu lu, excusez-moi. Et donc, voilà, il y a cet aspect-là. Et puis, enfin, Manon Roland, elle a été très stoïque pendant son procès et pendant sa mise à mort. Elle a été, on dit qu'elle s'est... qu'elle s'est aussi, elle était très nourrie par les héros de Plutarque, donc cette espèce de retenue face à la mort, ne pas exprimer sa peur, etc. Ça aussi, on lui a reproché avec cette idée que c'est normalement un comportement viril, qui n'est pas celui d'une femme, qu'elle est mère, qu'elle aurait dû exprimer de manière beaucoup plus claire sa douleur d'être séparée de sa fille, etc. Donc elle n'a pas eu un comportement en plus féminin lors de sa mise à mort. Donc, tous ces éléments-là, vous voyez, ça peut être des éléments qui viennent, par le prisme comme ça, des réactions, interroger sur qu'est-ce que ça doit être une femme, du coup, pendant la Révolution. Qu'est-ce que c'est qu'un bon modèle de féminité pendant la Révolution, à travers cet exemple répulsif de Manon Roland.
Et est-ce que tous ces reproches, ils ont été construits après coup pour justifier son élimination ?
Oui, on l'a accusée, et c'est ses engagements avant tout girondins. Et effectivement, elle joue un rôle clé dans les espaces de sociabilité de la nébuleuse girondine. Et donc c'est pour cette raison-là avant tout qu'elle a été condamnée. Donc bien sûr, ces arguments vont justifier cette mise à mort politique, mais en fait, c'est des arguments qu'on va retrouver quand même tout au long de la période et qui sont souvent tenus par des journaux comme le journal Révolution de Paris, qui est un journal qui a beaucoup manifesté justement des arguments misogynes pour contester la place des femmes dans la cité, pour limiter le plus possible leur rôle politique. Je pense que Manon Roland, elle est une figure intéressante pour toutes ces raisons, parce qu'elle permet d'explorer un petit peu l'envers de la bonne féminité républicaine.
Oui, du coup, peut-être choisir les documents quand on travaille sur elle, peut-être pas choisir ses écrits à elle, mais aussi les confronter à des extraits de la presse après sa mort.
Exactement, mais il y a certains manuels d'ailleurs qui utilisent cet article « Avis aux femmes, avis aux républicaines » qui avait été fait justement dans la Gazette Nationale, que je réutilise dans Retro News. Parce que c'est d'autant plus intéressant que c'est un article qui vraiment utilise de manière pédagogique la mort de Manon Roland, la mort de Olympe de Gouges, etc. Ils vont utiliser ces morts pour dire « Femmes républicaines, voyez ce que vous ne devez pas être ». Et donc là, on sent vraiment, on est dans ce moment du décret Amar, que je vous ai parlé tout à l'heure, de la fin des clubs politiques féminins. On est vraiment dans un moment de tentative de remise à l'ordre.
Aux républicaines. En peu de temps, le tribunal révolutionnaire vient de donner aux femmes un grand exemple, qui ne sera pas sans doute perdu pour elles, car la justice, toujours impartiale, place sans cesse la leçon à côté de la sévérité. Marie-Antoinette est morte chargée des imprécations de ceux dont elle avait voulu consommer la ruine. Son nom sera à jamais en horreur à la postérité. Olympe de Gouges voulut être homme d'État, et il semble que la loi ait puni cette conspiratrice d'avoir oublié les vertus qui conviennent à son sexe. La femme Roland, bel esprit à grands projets, philosophe à petits billets, fut un monstre sous tous les rapports. Le désir d'être savante la conduisit à l'oubli des vertus de son sexe, et cet oubli, toujours dangereux, finit par la faire périr sur un échafaud. Femme, voulez-vous être républicaine ? Aimez, suivez et enseignez les lois qui rappellent vos époux, vos enfants à l'exercice de leurs droits. Soyez simple dans votre mise, laborieuse dans votre ménage. Ne suivez jamais les assemblées populaires avec le désir d'y parler, mais que votre présence y encourage quelquefois vos enfants. Alors la patrie vous bénira, parce que vous aurez réellement fait pour elle ce qu'elle doit attendre de vous. Extrait de l'article « Avis aux Républicaines », texte publié dans la feuille de salut public et repris par la Gazette nationale le 29 Brumaire en 2, soit le 19 novembre 1793.
Alors pour terminer, qu'est-ce que tu pourrais proposer aux enseignants pour les aider à transmettre une conception un petit peu plus complexe de la citoyenneté ? Comment les aider à intégrer les problématiques de genre dans leurs cours sur la Révolution française ?
Ce qui me semble intéressant, ça serait peut-être de réintroduire un petit peu plus dans l'enseignement de la Révolution française des paroles dissonantes, c'est-à-dire des paroles tenues par des hommes ou des femmes qui ont justement un point de vue critique sur les processus d'exclusion, sur les définitions de l'universalisme, sur la place des femmes dans la société, etc. etc. Ces points de vue critiques, alors, il y a beaucoup d'historiens qui disent « oui, mais c'est minoritaire, etc. etc. » Oui, c'est minoritaire, mais là où c'est extrêmement intéressant de passer par la dissonance, c'est que justement ces textes-là sont révélateurs d'enjeux. Parce qu'ils pointent les contradictions des discours, déjà, des législateurs notamment, et en pointant leurs contradictions aussi, ils montrent qu'est-ce qui était pensable à une époque, qu'est-ce qui était envisageable. Montrer aussi que voilà, ce n'est pas anachronique de réclamer l'égalité homme-femme sous la Révolution française, puisque certains l'ont fait. Il n'est pas anachronique aussi, comme beaucoup de gens le pensent, de dire que pendant la Révolution française, et dès le XVIIIe siècle, des femmes et des hommes ont défendu l'idée que la différence entre les sexes est avant tout sociale, qu'elle est le fruit d'une éducation, qu'elle n'est pas naturelle. Vous voyez, tout ce discours qu'on dirait aujourd'hui constructiviste, hein, du genre, et finalement, on peut en faire la généalogie déjà pendant cette période, et ça, on l'oublie un peu trop. Et donc, voilà, je pense que ça peut être intéressant de parler de figures critiques, Olympe de Gouges, bien sûr, mais par exemple, aller voir aussi des femmes qui ne sont pas connues. J'évoquais, par exemple, Elisabeth Bonaventure Laforie, qui est une militante qui n'est pas du tout célèbre, qui a été largement oubliée et qui en 1791 a fait un texte excessivement lumineux, critique, qui vient démonter les arguments justement de l'exclusion politique des femmes, etc. Et c'est grâce à ces textes voilà, qu'on a un regard un petit peu plus, complexe sur la période et qu'on évite aussi la lecture justement, la Révolution avait telle idée sur les femmes. Voilà. La Révolution, c'est une période traversée une nouvelle fois de conflits et de positions diverses. Et c'est ces confrontations de positions qui éclairent, je pense, la citoyenneté révolutionnaire.
Merci Caroline.
Merci à vous.
Si le sujet vous a intéressé, vous trouverez bien sûr, comme d'habitude, sur le site internet de l'association Mémosine, une bibliographie qui vous permettra d'aller plus loin et qui vous permettra aussi de trouver des documents que vous pourrez intégrer à vos cours. Pour rappel, Du genre dans l'histoire est le podcast de l'association Mémosine, dont l'objectif est de promouvoir l'histoire des femmes et du genre dans l'enseignement, dans le secondaire et dans le supérieur. Ce podcast est produit par l'association Mémosine, avec Cécile Béguin à la production, Fanny Cohen-Moreau à la réalisation et Clémentine Letellier à la lecture des textes.